Chers frères et sœurs, dans un acte qui ne sera pas de la fausse humilité, donc de la modestie, je tiens à dire qu'il est extrêmement embarrassant de prêcher sur un texte pareil, parce que le prédicateur ne peut rendre que fade ce propos qui en fait n'a pas vraiment besoin d'explication, qui se suffirait à lui-même. Alors, pour que ce ne soit pas trop fadouille, je me permets de convoquer un théologien immense, qui est né il y a 250 ans. Immense, mais fort peu connu, Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher est peut-être celui qui peut être considéré comme le père de la théologie moderne. C'est-à-dire de la théologie qui prend en compte les travaux des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Et à ce titre, il peut être considéré comme le réformateur de la réforme. C'est ainsi que le présente d'ailleurs le professeur Bernard Raymond. Le réformateur de la réforme. Celui qui inscrit le protestantisme dans notre histoire contemporaine. Celui qui sort le protestantisme de l'époque médiévale dans laquelle il avait vu son essor. Il est celui qui va pousser encore un peu plus loin l'exigence d'une interprétation des textes qui évitera le littéralisme, qui évitera cette religion mignonne, mais qui n'a plus rien à dire au monde. C'est ce théologien qui exercera son esprit critique contre toutes les formes religieuses qui étouffent ce qu'il appelle la vraie religion. La religion du fort intérieur. La religion dont sont capables tous les êtres humains. Cette véritable religion qui consiste à intuitionner l'univers, pour reprendre ces termes. Cette véritable religion qui s'élabore à partir de la foi, comprise non pas comme le fait de croire des choses invraisemblables, mais la foi comprise comme un sentiment pur et simple de dépendance à l'égard de Dieu. Ce sont ces termes, quoiqu'ils n'utilisent pas toujours le vocable Dieu. Pour Schleiermacher, il est interdit de se soumettre aveuglément à quelque instance que ce soit, y compris une instance qui serait dénommée Dieu. C'est pour cela qu'il se méfie du mot Dieu, car le mot Dieu peut être extrêmement tyrannique. Schleiermacher est un apôtre de la liberté. Et il fera d'ailleurs preuve d'une admirable liberté, aussi bien en tant que professeur à Berlin qu'en tant que prédicateur. Ce matin, je convoque donc Schleiermacher pour nous aider à faire retentir l'Évangile à travers ses paroles de l'Évangile selon Matthieu. Il nous aidera peut-être à retrouver la puissance subversive de Jésus et à restituer autant que possible la vraie religion que Jésus appelait de ses vœux. Je convoque donc Schleiermacher pour nous aider à profiter de la critique de la religion formulée aussi bien par lui-même dans cet ouvrage majeur de la religion, que par Jésus, à travers ces trois points qu'il aborde, l'aumône, la prière et le jeûne. Ces trois aspects, l'aumône, la prière et le jeûne, me semblent indiquer trois critiques possibles de la religion, notamment de notre religion, à travers ce que l'on pourrait appeler le sacramentalisme, le cléricalisme et le dogmatisme. Commençons par la question de l'aumône et du sacramentalisme. Augustin a une définition limpide de ce qu'est le sacrement. Il dit que c'est le signe visible d'une grâce invisible. Cela pourrait suffire à nous faire comprendre ce qu'est un sacrement. C'est le signe visible d'une grâce invisible. En protestantisme, le baptême est une manière visible de dire que nous avons notre place dans la communauté humaine, par grâce seule, et que personne ne pourra donc nous la retirer. La scène est une manière visible de dire que Dieu désigne ce qui nourrit notre existence, ce qui nous donne ce dont nous avons véritablement besoin pour aller notre route. Mais il y a dans l'Église des attitudes et des gestes qui peuvent faire obstacle à cette grâce. Il peut y avoir des façons de faire qui, au lieu de relever de la grâce, font écran à la grâce. En prenant le cas de l'aumône, Jésus prend un geste fondamental de la religion qui, à son époque, n'est pas encore chrétienne. Qu'y a-t-il de plus beau? Qu'y a-t-il de plus grand que de faire l'aumône, direz-vous? C'est-à-dire de donner à une personne nécessiteuse ce dont elle a besoin pour vivre, du moins pour ne pas dépérir. Comment ne pas louer un geste de charité? La charité étant au cœur de la foi chrétienne. Eh bien, le regard critique que Jésus porte sur les gestes de charité correspond à la critique que Schleiermacher fera du sacramentalisme. En effet, si les bonnes actions sont liées à la foi, ce n'est pas à n'importe quelle condition. L'épître de Jacques nous dit qu'il est possible de montrer sa foi par ses œuvres. Mais cela ne signifie pas que l'inverse soit vrai, bien au contraire. Faire des œuvres pour montrer sa foi serait tout à fait contraire à l'esprit biblique, qui nous fait comprendre que c'est la foi qui nous presse à la charité. Quand nous faisons de bonnes œuvres, c'est par grâce seule, et non pour obtenir quelque chose en échange. Et certainement pas des compliments, par exemple. Il n'est pas question de faire des œuvres pour qu'on dise de nous que nous sommes un être remarquable. Le sacramentalisme, qui consiste à faire de la religion un moyen pour se faire bien voir des hommes, est une perversion de la religion. Participer ostensiblement à la scène, avoir des attitudes ostensiblement religieuses pour attirer le regard sur nous, voilà une perversion de la religion. Dans ce cas, le sacramentalisme est une instrumentalisation de la grâce, et c'est un assassinat pur et simple de la vraie religion, car il fait de la foi une œuvre. Le sacramentalisme, pour Schleiermacher, conduit à faire de la religion, je cite, quelque chose d'autosuffisant qui a lieu à des dates déterminées et qui conduit les fidèles à adopter un comportement scolaire et mécanique. Comme j'ai l'occasion de le dire quelquefois, ce genre de comportement conduit à faire de nous des automates programmés et pas des êtres vivants. Quand tu fais l'aumône, quand tu pratiques ta religion, que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Que tout cela ne soit pas fait par vilain calcul humain pour obtenir quelques honneurs, quelques félicitations. Que tes actes soient accomplis par grâce seule. N'agis pas à condition d'obtenir un bon salaire en échange, mais agis parce qu'il est juste et bon de faire ce que tu as à faire. Agis selon l'impératif catégorique tel qu'en parle Emmanuel Kant, philosophe des Lumières justement, et n'agis pas dans le but d'obtenir quelque chose en échange. Parce que ta religion, c'est la religion de la grâce, pas la religion de la stratégie. Le deuxième aspect, nous l'avons entendu, concerne la prière. chrétiens, notamment dans la spiritualité protestante, c'est se tenir devant Dieu. C'est passer toute sa vie devant Dieu. Notre point de référence, c'est Dieu, et Dieu seulement. Ce n'est ni nous, ni ceux qui nous entourent. Lorsque nous prions, lorsque nous faisons le point sur notre vie, lorsque nous pensons à ce que pourrait être notre avenir, c'est devant Dieu que nous sommes invités à nous placer, pour que notre vie soit jugée à la hauteur ou à la profondeur de Dieu, et non selon nos propres critères. Cependant, nous avons une forte propension à suivre la voie de maîtres qui ne sont pas toujours divins. Nous avons tendance à suivre la majorité, par exemple, ou à suivre celui qui parle le plus fort, ou à suivre le dernier qui a parlé, à celui qui est peut-être le plus gradé. Eh bien, à chaque fois que nous faisons cela, nous faisons preuve de cléricalisme. Au lieu de penser personnellement et d'éprouver nos pensées à l'aune de la parole de Dieu, nous nous alignons sur la pensée d'un autre ou sur la pensée d'un groupe et nous rétablissons la distinction abolie par la réforme entre les prêtres et les laïcs. Et cela revient à considérer qu'il y a des croyants de seconde catégorie, incapables de forger un juste jugement, qui sont juste bons à vivre sous la tutelle de directeurs de conscience. Cela revient à considérer que certains ne pourraient pas avoir accès directement aux saintes vérités, mais qu'il devrait toujours passer par le truchement d'un autre, d'un maître à penser. Dans une page saisissante, Schleierhauer s'en prend, je cite, « aux médiocres, qui imitent les prières des autres, qui tiennent toute leur religion de quelqu'un d'autre, et qui la font dépendre d'une écriture morte, sur laquelle ils font leur serment, et dont ils tirent leurs arguments. Le cléricalisme empêche la foi individuelle, parce qu'elle la remplace par l'argument d'autorité. Au lieu de nous permettre de transcender notre situation, le cléricalisme ne fait que confirmer les situations, les états, les opinions. C'est comme ce journaliste catholique dans les années 60, à qui on demandait ce qu'il pensait d'une question éthique. Lui qui était catholique, et bien il disait, si vous voulez savoir ce que je pense, allez le demander à Rome. Voilà qui est proprement insupportable. Au lieu de libérer les initiatives, au lieu de faire voir à l'audace qui permet à la vie de frayer toujours son chemin, le cléricalisme condamne chacun à reproduire ce qui s'est toujours dit, ce qui s'est toujours fait et ce qui plaît déjà. Le cléricalisme consiste à caresser dans le sens du poids. Et cela étouffe l'Évangile. Le troisième point qu'aborde Jésus, c'est le jeûne. Ce n'est peut-être pas le point sur lequel nous sommes le plus forts en protestantisme. Mais peu importe, le jeûne est une figure symbolique qui nous permet de prendre conscience de toutes ces pratiques par lesquelles nous sommes invités à faire un peu de place en nous-mêmes pour accueillir de nouvelles choses. Le jeûne consiste à s'ouvrir à plus grand que soi, à ne pas s'autosuffire, à considérer qu'il y a des vérités qui transcendent nos vérités du moment, et à leur faire bon accueil. Au lieu de nous gaver de nos aliments quotidiens, au lieu de nous gaver de nos propres vérités, le jeûne nous oriente vers ce qui peut transcender nos convictions. Mais lorsque nous pratiquons le jeûne pour se faire bien voir, donc pour attirer l'attention sur soi, le jeûne revient alors à se remplir de l'admiration de ceux à qui nous nous montrons. Et dès lors, au lieu de nous ouvrir aux grandes vérités, nous nous alimentons en circuit fermé. La vraie religion est au contraire consiste à s'ouvrir à l'altérité, à ce qui sort de l'ordinaire, à ce qui n'est pas notre lot commun. Si nous considérons les autres comme un miroir qui pourront nous renvoyer une image admirable de nous-mêmes, une image encore plus belle de nous-mêmes, eh bien, nous aurons notre récompense immédiatement. Mais cette récompense sera bien minable, bien piteuse au regard de ce que permet l'ouverture qu'autorise la véritable religion. Le risque de cette façon de pratiquer le jeûne est de mettre en place une doxa, cette opinion commune qui tient lieu de vérité sans être discutée, l'opinion commune. Selon le mot de Schleiermacher, qui s'adressait aux croyants de son époque, cette pratique consiste à ne vivre que des honneurs de la bonne société. Et elle fait courir à la religion le risque d'être éliminée, au point qu'elle s'adapte à tout et qu'on la supporte aisément partout. Vous voyez, cette pratique consiste simplement à nourrir une forme de conformisme, un conformisme dogmatisé. Dans tous ces cas, dans ces trois exemples, la religion devient méprisable. Et les croyants ne sont alors que de tristes cires qui n'adorent plus l'Éternel, mais qui n'adorent plus qu'eux-mêmes. Dans tous ces cas, ce que font les croyants, c'est d'adorer des formes religieuses, rassurant sur le moment, mais qui prépare des lendemains qui feront largement déchanter. À travers la critique formulée par Jésus, nous pouvons comprendre que pour une part, la vraie religion est celle qui est capable d'une critique sur elle-même, ce qu'on appelle la critique interne. Repérons les véritables religions à leur capacité à s'interroger sur elles-mêmes, à interroger le bien fondé de leur pratique et de leur discours. La vraie religion est celle qui est capable de se réformer. C'est par cet effort constant de la critique que la religion n'en reste pas à ses manifestations, à ses formes classiques et souvent superficielles. Tellement classiques et tellement superficielles qu'elles n'ont plus rien à dire au monde d'aujourd'hui. Elles confinent au sacramentalisme, au cléricalisme, au dogmatisme et à bien d'autres ismes. C'est par cet effort de la critique interne que la religion peut nous permettre d'impressionner effectivement l'univers, ce qui a un caractère universel. Tout au long de la critique de Jésus, le terme qui revient au sujet de ces personnes qui pensent être de vrais croyants, c'est le terme hypocrite. C'est pas tout à fait charmant comme terme. Hypocrite, ce sont ceux qui jouent un rôle de composition. Hypocrite, ce sont ceux qui se cachent derrière des attitudes a priori nobles, comme l'aumône, comme la prière, comme le jeûne. Des attitudes qui en principe sont empreintes d'une spiritualité profonde, mais qui en fait ne soignent que les formes, qui n'entretiennent que la superficialité. La vraie religion, par conséquent, est iconoclaste. La vraie religion est iconoclaste au sens où elle refuse la dictature de l'image, de la démonstration de force. La vraie religion ne se mesure jamais à ce qui est visible à l'œil nu. La vraie religion n'est donc jamais un concours de celui qui a la plus grande fortune ou quoi que ce soit d'autre. La vraie religion, c'est celle du fort intérieur. La vraie religion ne cherche pas à montrer quoi que ce soit. Elle n'est pas là pour attirer les regards ou les honneurs. Elle n'est pas là pour faire du bruit. Elle n'est même pas là pour être reconnue. Elle n'est pas là non plus pour nous empêcher d'être soi, bien au contraire. La vraie religion nous permet de jeter à bas le masque, de cesser de faire les hypocrites. La vraie religion nous libère du regard de jugement de l'autre. La religion que présente Jésus nous permet de trouver notre raison d'être indépendamment du jugement de la société ou d'un groupe. Pour le dire de manière religieuse, notre identité est en Dieu. Cela signifie que notre identité ne dépend ni de notre naissance, ni de nos appartenances. Notre identité n'est pas conditionnée par les jugements humains, encore moins lorsque ces jugements se fondent sur des apparences trompeuses et sur des jeux de rôle. Dire que notre identité est en Dieu, dans ce face-à-face avec Dieu, c'est dire qu'elle a un caractère inconditionnel, qu'elle ne dépend ni de ce que nous faisons pour obtenir un jugement favorable de la société, ni de ce que la société dit à notre sujet. Dire que notre identité est en Dieu implique que nous pouvons agir nous aussi par grâce seule, sans verser dans un sacramentalisme qui serait une manière d'agir mécaniquement pour obtenir les faveurs de la société ou de notre entourage. Dire que notre identité est en Dieu implique que nous pouvons penser par grâce seule, sans nous inquiéter de ce que les autres pensent de nos idées. Dire que notre identité est en Dieu implique que c'est de Dieu que nous tirons les paroles qui nous sont nécessaires pour donner chair à notre existence, et non des louanges qu'on pourrait nous adresser au prétexte que nous agissons selon les critères en vogue à un moment donné. Dire que notre identité est en Dieu, c'est dire que nous sommes libres. Libres de devenir ce que nous jugeons être le plus adéquat pour nous, éclairés par notre conversation personnelle avec la parole de l'Éternel. Amen.